Et bonjour à tous et bienvenue dans le Labomatique, l'émission rennaise dédiée à la recherche scientifique sur Radio Campus Rennes 88.4. Aujourd'hui, j'ai rencontré Ilham Jeanetto et Maxime Penet dans les locaux de Supélec. Ces deux doctorants travaillent ensemble dans le laboratoire IETR au sein de l'équipe d'automatique des systèmes hybrides. Leur thèse porte sur le diabète de type 1. Les deux étudiants tentent de mettre au point un logiciel qui permettrait de simplifier la vie des patients atteints de diabète. L'objectif est de créer un système automatique qui distribuerait aux malades la quantité d'insuline nécessaire tout au long de la journée. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'automatique et plus particulièrement à l'automatique et au diabète de type 1. Donc à mes côtés, Maxime Penet et Ilham Jeanetto. Donc vous êtes tous les deux doctorants au sein du laboratoire de l'IETR et plus particulièrement au sein de l'équipe d'automatique des systèmes hybrides à Supélec, donc l'école supérieure d'électricité. Alors pour commencer, on va peut-être expliquer ce que c'est que le diabète de type 1. Alors, je vous laisse la parole.
Avant de parler du diabète de type 1, je vais introduire la glycémie. La glycémie, où c'est le taux de glucose dans le corps humain. Et dans l'organisme, il est régulé de manière fine, autour de 1 g par litre. Et le corps a besoin de glucose, ce que le cerveau en a besoin pour fonctionner, les globules rouges, le muscle, tout l'organisme en a besoin. Et cette régulation, autour de 1 g par litre, elle est faite par l'insuline, qui est une hormone fabriquée par le pancréas. Dans le cas du diabète de type 1, ce qui se passe, c'est que le pancréas ne fabrique plus d'insuline. En fait, les cellules qui fabriquent cette hormone sont détruites. Et l'organisme ne peut plus réguler la glycémie de manière fine parce qu'il n'y a pas cette insuline. Parce que l'insuline, c'est la seule hormone qui permet au sucre de rentrer dans les cellules. C'est une sorte de clé qui permet au sucre de rentrer dans les cellules. Au début, quand quelqu'un commence à être diabétique, que l'insuline n'est plus produite, il va continuer sa vie tous les jours, donc manger. Donc ce qu'il va faire, apporter du sucre dans le sang. Et ce sucre, vu qu'il n'aura plus d'insuline ou plus assez d'insuline, il ne va pas rentrer dans les cellules, donc il va rentrer dans le sang, il va y avoir trop de sucre dans le sang. Et c'est justement comme ça qu'on peut savoir que quelqu'un est diabétique. Si on fait une glycémie et qu'elle est élevée, au-dessus de 1,80 g par litre, par exemple, et on peut se poser des questions, justement, s'il n'y a pas un problème, justement, s'il n'y a pas diabète de type 1 ou un autre type de diabète.
Et en temps normal, c'est combien de grammes par litre pour une personne non diabétique ?
En dehors des repas, c'est entre 0,7 et 1,20 à peu près.
À l'heure actuelle, comment font les patients pour réguler leur taux de sucre dans le sang ?
Donc, le traitement usuel pour les patients diabétiques, en fait, ils vont mesurer leur taux de sucre dans le sang, généralement en se piquant le bout du doigt. Ils ont un petit appareil qui va faire la mesure du taux de sucre adéquat. Et en fonction de ce qu'ils ont mesuré, aussi en fonction d'autres paramètres, par exemple, s'ils vont manger bientôt, donc il y a une estimation du taux de sucre qu'ils vont consommer, ils vont s'injecter une certaine quantité d'insuline pour favoriser le stockage du sucre dans le foie, dans les muscles, etc.
Et alors vous deux, vous travaillez dans la même équipe, et donc vous essayez de mettre en place un nouveau système. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce nouveau système sur lequel vous travaillez ?
Alors, dans l'idée, en fait, ce qu'on a actuellement, l'état de l'art, on va dire, on a des capteurs qui peuvent mesurer la glycémie d'un patient, entre guillemets, en temps réel. Ils mesurent toutes les 5 minutes environ. On a une pompe à insuline qui peut délivrer la bonne quantité d'insuline, enfin la quantité d'insuline que la personne veut s'injecter, mais on n'a pas d'algorithmes, de logiciels qui font le lien entre les deux. Donc notre but ici, ça va être de faire le lien, de partir d'une mesure de glycémie, trouver la bonne quantité d'insuline à injecter pour bien réguler le taux de sucre du patient.
Donc tout ça, ce serait sous forme d'un logiciel?
Oui, effectivement, le but serait vraiment de faire un logiciel, dans un premier temps. Dans l'absolu, ce que d'autres équipes envisageraient, donc pourquoi pas nous, c'est pas une mauvaise idée que ce soit sur des smartphones ou des choses comme ça, qu'il y ait un logiciel qui va faire un traitement de données à partir de la mesure de la glycémie qui va envoyer la bonne commande à la pompe à insuline.
Ou sinon, ça peut être directement intégré soit dans le capteur ou dans la pompe, parce qu'il y a des capteurs et des pompes à insuline qui communiquent entre eux déjà, qui s'échangent des informations. Donc ça peut être implémenté dans ces appareils-là en dur.
Et alors vos travaux, qui se divisent un peu en deux branches différentes, en gros vous allez nous expliquer chacun de votre côté sur quoi vous travaillez.
Donc avant de commencer, on voudrait juste peut-être, pour les gens un peu moins habitués, est-ce que c'est l'automatique, est-ce que c'est... Donc en fait, dans l'idée, c'est généralement on va se donner des modèles d'un système, des modèles plus ou moins simples, plus ou moins compliqués, plus ou moins réalistes. Et le but, ça va être, dans ces modèles, généralement, on a une entrée supplémentaire, dite entrée de commande, et le but, ça va être de trouver la bonne commande pour que le système se comporte comme se comporterait le modèle, comme on voudrait que le modèle se comporte.
Donc, moi, je travaille sur la partie modèle. Donc, c'est un modèle, en gros, du système insuline-glucose. Donc, l'insuline, c'est mon entrée. Le glucose, donc, c'est ce que je vais mesurer à la sortie. Et j'essaie, en fait, de développer un modèle mathématique, donc sous forme d'équations différentielles, qui soit assez simple pour qu'on puisse développer une commande par-dessus, mais qui soit aussi assez précis, qui représente assez bien le système réel. Donc, si j'ai des données de patients diabétiques, que je vais réussir à identifier mon modèle dessus, à faire en sorte que mon modèle ne soit pas très loin de mes vraies données.
Donc pour ma part, je m'occupe surtout de l'aspect commande. Donc cet aspect commande, en fait, il est très basé sur l'aspect modèle, notamment par le fait qu'en fait, il va essayer de prendre en compte aussi que le modèle, on a dû le simplifier et que donc il n'est pas extrêmement précis. Et donc c'est en ce sens-là que la commande qu'on va développer, elle va être robuste face aux erreurs de modèle. Et donc le but final, en fait, c'est que sur une mesure de glucose, donc de taux de sucre en temps réel, on dise à la personne, ou à la pompe plutôt, quelle est la meilleure quantité, dans le sens où elle est la plus sûre et elle permet de réguler le plus vite possible la personne, quantité d'insuline nécessaire. Donc il y a un lien très fort en fait entre le modèle et la commande, dans le sens où en fait d'un point de vue modèle on pourrait tenter de se dire je veux être le plus précis possible, parce qu'en fait je veux faire un modèle de patient diabétique de type 1. Donc le but, je pourrais me dire je prends en compte tous les phénomènes du corps humain, je fais un super système d'équations différentielles méga compliqué, et là j'ai un modèle extrêmement précis qui rend très bien ce qui se passerait vraiment dans la vie. Le problème étant, c'est que d'un point de vue commande, ça va devenir très difficile à gérer. Un grand nombre d'équations, un grand nombre d'inconnus, ça devient trop dur à gérer, trop dur à faire des choses dessus. Et donc de ce coup-là, c'est en ce sens-là où il y a un certain lien entre le modèle et la commande, puisqu'il va falloir faire un compromis à la fois entre la précision du modèle et la simplicité nécessaire au modèle pour que derrière, on puisse réaliser une commande.
Une petite pause musicale, on s'écoute les Cake Madafaka avec le titre Make the First Move.
Lately I've been out, hung up on this one girl. You know the type, but every busy night. I like her flavor, but this one thing got me grind. That she never talks to me before I'm talking to her. She wants me to be a proper dad.
La technique que vous êtes en train de mettre en place, est-ce qu'elle est plus pratique? Quels sont les avantages par rapport à la technique actuelle? Et est-ce qu'il y a peut-être des inconvénients aussi, je ne sais pas.
Par rapport à aujourd'hui, donc c'est très difficile pour un patient diabétique de suivre sa glycémie en continu et de faire les bonnes décisions. Il pourrait le faire, parce que c'est ce qu'il fait déjà, mais tout le temps, donc c'est difficile. Donc on espère, donc en automatisant tout ça, que ça sera plus simple, plus sûr aussi. Si on mesure la glycémie en continu, on prend en compte cette information. Si la glycémie commence à diminuer, ou à être trop élevé, donc on espère que la commande va réagir de manière plus efficace que fait le patient actuellement. Parce que un problème qu'on n'a pas parlé, donc il faut que la glycémie soit toujours autour de 1 g par litre, mais chez un patient diabétique, il y a donc, comme c'est difficile à réguler, parce que c'est fait en gros à la main, il ne faut pas que la glycémie soit trop faible, inférieure à 0,6 g par litre, ou sinon on est ce qu'on appelle en hypo, ou trop élevé, au-dessus on va dire de 1,80 g par litre, et là on est ce qu'on appelle en hyper. Parce que si c'est pas bien régulé, après il peut y avoir pas mal de complications et de problèmes.
Éventuellement, il y a quand même un inconvénient qu'on peut le penser, c'est qu'aujourd'hui, si le patient diabétique, il se connaît extrêmement bien, il peut voir dans l'avenir, dans le sens où il sait si lui, il va manger, par exemple, dans un quart d'heure. Donc, il peut prévoir la quantité d'insuline nécessaire pour réguler son repas qui arrive dans un quart d'heure. Or, si on fait une commande, nous, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. A priori, on n'a pas d'informations supplémentaires. Donc, on peut penser que par défaut, sans informations supplémentaires, hors la mesure de la glycémie en temps réel, la régulation sera sans doute, au moins dans un premier temps, moins performante que ce que pourrait réguler lui-même le patient.
Mais en fait, c'est uniquement dans le cas des repas. Parce qu'en gros, là, il y a des problèmes qui sont plus pour l'action du repas qui se fait avec retard. Et l'action de l'insuline qui va se faire elle aussi avec retard. Donc combiné de retard.
Dans ce système automatique, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre en place, je ne sais pas moi, un bouton que le patient activerait, par exemple 15 minutes avant de manger, pour que la machine soit au courant que d'ici 15 minutes, il va y avoir un apport assez important en sucre?
C'est possible. Ça permettrait peut-être de prévenir un peu, d'envoyer des petites quantités d'insuline. Mais il y a aussi un problème. Si la personne pense qu'elle va manger et qu'elle ne mange pas, là, on aura fait trop d'insuline, donc ça va être trop bas. Donc voilà, donc on ne peut pas non plus trop réagir en avance. Et si même le patient peut dire « je vais manger telle quantité de glucose », s'il s'est trompé dans l'estimation de ce qu'il va manger, qu'il a mangé beaucoup moins, qu'il s'est dit « je vais manger peut-être des frites » et finalement il mange des haricots verts, c'est pas la même chose.
Et alors dans combien de temps est-ce qu'on pourrait espérer que ce système soit mis en place?
Donc en fait, à ce niveau-là, ça va dépendre quelle solution on désire apporter. Si on désire apporter une solution à dire « je régule la glycémie », par exemple, dans des situations plus favorables, dans le sens où on a vu le gros problème, c'était surtout les repas qui sont très compliqués à gérer, il y a beaucoup d'effets. Donc si on se concentre dans un premier temps à se dire « j'essaye de réguler la glycémie du patient juste pendant la nuit ». Donc dans ce cadre-là, on pourrait penser qu'il y a des solutions à moyen terme, court terme, je ne sais pas, qui peuvent arriver d'ici, on va dire, 4-5 ans. Après, si on envisage des solutions complètes, c'est-à-dire des prises en compte de la régulation de la glycémie, mais toute la journée, donc avec la prise en compte des repas, donc là, il faudra prendre au moins 10-15 ans.
Et alors du coup, est-ce que vous travaillez avec des médecins au quotidien, enfin, dans vos recherches?
Effectivement, on travaille avec deux médecins du CHU de Rennes. On les voit assez régulièrement, environ toutes les deux semaines, lors de réunions. En fait, on leur présente nos travaux et eux nous présentent ce qu'ils estiment important pour nous de prendre connaissance de telle ou telle information. Donc ces médecins, c'est eux qui vont apporter vraiment le dernier mot à dire est-ce que cette solution elle est viable ou non, est-ce qu'elle ressemble à ce que pourrait se faire un patient, donc on pourrait penser que c'est pas trop mal, est-ce qu'un médecin pourrait songer bien ou mal. C'est une collaboration qui est extrêmement importante, ce qui nous apporte leur expertise patient, une expertise que nous on a peut-être assez difficilement parce que nos essais restent limités à un simulateur de patients, et un simulateur, c'est en rien un patient, d'où l'importance de leur avis.
Alors, avec les recherches que vous faites, est-ce qu'il est possible de faire un lien entre les deux types de diabète qui existent à l'heure actuelle?
Oui, tout à fait. C'est le diabète de type 2, c'est un peu différent, c'est que c'est pas qu'il y a de l'insuline, mais elle est moins active. Mais il y a pas mal de diabétiques de type 2 maintenant qui sont aussi traités à l'insuline. Donc, s'ils sont traités à l'insuline, bah, c'est bien pour la même chose, pour faire baisser la glycémie. Donc, ce qu'on développe peut bien être appliqué à ces cas-là.
Est-ce que les recherches sur le diabète de type 1 et en automatique sont pas mal développés dans le monde en général. Et est-ce que vous êtes amené à collaborer ou à en tout cas prendre contact avec d'autres équipes?
Oui, les recherches sur cette thématique sont assez développées. Il y a une grosse association américaine, la JDRF, qui a organisé donc un objectif sur le pancréas artificiel, donc exactement ça, il y a 2-3 ans maintenant. Donc il y a plus de 9 équipes qui collaborent sur ce projet-là. Un certain nombre aux États-Unis, en Italie, en France, il y a le CHU de Montpellier qui participe, en Angleterre. Il y a aussi d'autres projets européens sur cette thématique, donc il y a pas mal de laboratoires. On n'a pas de collaboration directe pour l'instant, mais on a des échanges avec eux lors de conférences ou de rencontres internationales.
On n'a pas de collaboration directe, mais quand même, notre simulateur de patient virtuel, il vient d'une de ces équipes américaines, justement. Donc, c'est pas direct dans le sens qu'on n'a pas de contact avec ces gens-là, mais ils font des outils qu'ils mettent à disposition d'autres équipes de recherche.
Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Radio Campus Rennes au www.radiocampusrennes.fr. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux numéros du Labomatique. À bientôt.